Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Il pourrait muter et se propager encore plus facilement. Le coronavirus, qui a déjà fait 9 morts en Chine et contaminé plus de 400 personnes, vient de toucher les États-Unis. Une personne hospitalisée, après d'autres cas recensés au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande et à Taïwan. Des masques pour se protéger et protéger les autres, c'est ce que recommandent les autorités sanitaires chinoises avant le nouvel an lunaire, synonyme de voyage de centaines de millions de personnes.
Et dans quelques instants, la question du jour, Catherine, épidémie, faut-il craindre le nouveau virus chinois? On posera la question à Yazdan Pana, directeur de l'Institut d'immunologie, d'inflammation et d'infectiologie à l'INSERM.
Mais à la une encore, le procès en destitution de Donald Trump à Washington, âpre bataille au Sénat. Les démocrates accusent les républicains d'organiser l'acquittement au pas de charge du président des États-Unis. Donald Trump, qui a obtenu une suspension des taxes des géants du numérique en France jusqu'à la fin de l'année, il en sera question aujourd'hui au Forum économique mondial de Davos, entre le ministre français de l'économie Bruno Le Maire et son homologue américain. Et puis c'est aujourd'hui l'ouverture officielle de Parcoursup. Les élèves de terminale et les étudiants en réorientation vont pouvoir commencer à formuler leurs vœux pour la plateforme post-bac. Parmi les nouveautés cette année, 2 voies d'accès aux études de médecine. Faut-il déclarer une urgence de santé publique de portée internationale? L'OMS se penchera sur la question ce soir à Genève, alors que le nouveau virus respiratoire qui touche la Chine a déjà fait 9 morts, 440 cas officiellement recensés, plusieurs patients hospitalisés en Asie, mais aussi, et c'est une première, aux États-Unis, à Seattle, dans le nord-ouest du pays. Un homme d'une trentaine d'années, de retour de Wuhan, le foyer de l'infection en Chine, a donc été hospitalisé et le virus respiratoire pourrait muter et se propager plus facilement, a averti Pékin cette nuit. Les autorités chinoises disent prendre la mesure du risque, Dominique André.
Li Bin, le vice-ministre chinois de la Santé, rejette les projections des experts étrangers. Le nombre des personnes infectées actuellement est de 440 et non plus d'un millier. Monsieur Li affirme que la Chine est transparente sur l'épidémie qui inquiète alors que des centaines de millions de Chinois voyagent cette semaine pour le nouvel an lunaire. Ventilation et désinfection dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux sont les mesures annoncées aujourd'hui. Li Bin craint une propagation et même une mutation du virus.
Les experts confirment que l'épidémie a été découverte à Wuhan et confirment la transmission entre humains. Des travailleurs médicaux ont été infectés. Une transmission limitée existe aussi parmi les habitants d'une même résidence. Ce virus est transmis principalement par le système respiratoire. Le virus pourrait muter et se propager plus facilement avec un risque de propagation durable plus large. À l'occasion de la fête du Nouvel An, la population bouge et cela risque d'aggraver la diffusion du virus. On ne peut pas relâcher notre vigilance, il faut vraiment faire attention.
Il faut adopter la culture du masque pour se protéger et protéger les autres, a lancé M. Bin, qui recommande de ne pas aller à Wuhan, le foyer de l'infection.
Dominique André à Pékin pour France Culture et par précaution donc les États-Unis, dernier pays touché par ce coronavirus. Les États-Unis vont mettre en place des contrôles systématiques dans les aéroports pour les voyageurs qui reviennent du foyer de l'épidémie chinoise. Toujours aux États-Unis, premier jour hier du procès en destitution de Donald Trump devant le Sénat pour abus de pouvoir, notamment avec ce coup de téléphone échangé l'été dernier avec le président ukrainien Zelensky pour tenter de lui soutirer des informations compromettantes sur un rival politique, le démocrate Joe Biden. Procès qui marquera les livres d'histoire car c'est seulement la troisième fois qu'un président des États-Unis doit ainsi subir la menace d'une destitution. Procès dont on connaît déjà l'issue avec une quasi-certitude. Donald Trump sera acquitté par ses pairs républicains majoritaires au Sénat. Et la première journée de procès hier a été l'occasion de vifs échanges entre républicains et démocrates sur le déroulé à venir de ce procès, Grégory Phillips.
À 13h17, heure de Washington, le juge John Roberts, le président de la Cour suprême, demande au sergent en armes du Sénat d'annoncer l'ouverture de ce procès en réclamant à tous un silence absolu, comme le prévoit la Constitution. Puis pendant de longues heures, devant les 100 sénateurs, impassibles, les 7 représentants démocrates qui font office de procureurs et l'équipe d'avocats qui défend le président bataille. Principale question, faut-il convoquer des témoins comme par exemple le chef de cabinet du président, Mick Mulvaney? Les sénateurs républicains alignés sur la position de la Maison-Blanche, votent contre, ce qui fait dire ceci au représentant démocrate de New York, Hakeem Jeffries.
Donald Trump joue une obstruction totale. À côté, Richard Nixon était un enfant de cœur.
Comme pour une émission télévisée, les procureurs démocrates diffusent des extraits vidéo d'interviews ou de conférences de presse de Trump pour appuyer leurs propos. L'équipe de défense du président réplique et rend coup pour coup, comme ici Jesse Culot, son avocat personnel.
Pourquoi on est ici? Parce que depuis le premier jour du président à la Maison-Blanche, vous voulez le destituer.
Ce n'est qu'en milieu de semaine prochaine qu'on entrera dans le cœur de ce procès et que les sénateurs devront trancher notamment sur la question de la convocation d'éventuels témoins.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Et Donald Trump, par ailleurs, a obtenu de la France ce week-end, après un entretien avec Emmanuel Macron, une suspension de la taxe sur les géants du numérique pour l'année 2020. Washington menaçait de surtaxer des produits français, vins et fromages notamment. La taxe sera donc différée et le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, devrait aborder cette question aujourd'hui avec son homologue américain, Steve Mnuchin. Ce sera au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Les explications de Marie Vienno.
Pour le moment, la France est l'un des seuls pays à appliquer une taxe spécifique sur les grandes entreprises du numérique. Mais la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont dit vouloir faire de même. En Italie, il ne manque même plus que les décrets. Alors depuis l'été dernier, les États-Unis menaçaient la France de sanctions commerciales, façon pour eux de dissuader d'autres pays de lui emboîter le pas. Finalement, la France a accepté non pas de retirer sa taxe, mais de suspendre les paiements qui sont dus pour l'année 2020 jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire décembre. Cela laisse le temps aux négociations sur la taxation du numérique qui sont en cours sous l'égide de l'OCDE d'avancer et surtout d'aboutir, espèrent Américains et Français qui disent privilégier une solution mondiale. En revanche, si en décembre, rien n'a été conclu, la France demandera son dû aux entreprises concernées et les menaces de représailles commerciales pourront éventuellement reprendre, éventuellement, car entre-temps, il y aura eu les élections américaines. Si Donald Trump perd, la donne peut changer. Mais dans l'immédiat, son accord avec Emmanuel Macron met l'OCDE et les 135 pays qui négocient sous pression. L'OCDE a proposé une approche en octobre. Elle a le mérite de tenir compte de toutes les lignes rouges exprimées sur ce sujet. Mais pour arriver à une solution, il faut encore définir des seuils, des pourcentages, des clés de répartition, tous les détails dans lesquels, dit-on, se trouvent autant de diables et de sujets de discorde.
Lui se rendra demain à Davos. L'opposant vénézuélien Juan Guaido a entamé une tournée européenne à Londres hier, à Bruxelles aujourd'hui, pour resserrer les liens avec les pays qui l'ont reconnu président par intérim du Venezuela. C'était il y a bientôt un an. Les précisions du correspondant de RFI à Caracas, Benjamin Delisle.
C'est la deuxième fois en un an que Juan Guaido défie son interdiction de sortie du territoire. Il a traversé la frontière colombienne vendredi sans préciser comment avant d'arriver samedi soir à Bogota. Il y a rencontré tour à tour le président colombien Iván Duque, puis le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui entamait une tournée en Amérique latine. Celui-ci a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts pour, je cite, « en finir avec la tyrannie de Nicolas Maduro ». C'est un homme fantaisiste, a réagi l'intéressé, dont le gouvernement qualifie d'insignifiant le déplacement de Juan Guaido. Après avoir atterri à Londres ce mardi, l'opposant se rend à Bruxelles pour rencontrer Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, puis direction Davos jeudi pour le Forum économique mondial où il espère s'entretenir avec Donald Trump et Emmanuel Macron. Affaibli politiquement, Juan Guaido espère obtenir un soutien plus franc de ses alliés internationaux. Mais malgré une multiplication des sanctions contre Caracas depuis un an, Nicolas Maduro reste inamovible. Et on voit mal ce que les Européens ou les États-Unis peuvent faire de plus à part lui souhaiter bon courage.
Et des agents des services de renseignement vénézuéliens ont perquisitionné hier à Caracas les bureaux de l'opposant Juan Guaido alors qu'il était donc en déplacement en Europe. Emmanuel Macron en visite en Israël dès aujourd'hui alors que demain une quarantaine de dirigeants du monde entier commémoreront à Jérusalem le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Emmanuel Macron participera au 5e forum mondial sur la Shoah alors que les derniers témoins directs disparaissent. La question de la transmission de la mémoire est encore plus aiguë. Et pour répondre à ce défi, mémoire collective et récits individuels, certains en Israël imaginent de nouveaux supports, comme transposer par exemple la vie d'une jeune Hongroise déportée en story pour Instagram. 1,5 million d'abonnés sur ce compte. Reportage à suivre à 7h24 de notre correspondant à Jérusalem. Le Liban s'est finalement doté hier d'un nouveau gouvernement qui aura la lourde tâche de relancer une économie en chute libre et de convaincre des manifestants toujours hostiles à la la classe politique. Ils ont manifesté encore hier à Beyrouth. Il est 7h10 sur France Culture à la Une en France. Le gouvernement qui annonce des mesures de soutien pour tout le secteur des transports de marchandises, de la logistique affectée par les grèves et les blocages dans les ports notamment. Les dockers sont en grève depuis le 5 décembre, opposés à la réforme des retraites. On parle de dizaines de millions d'euros de pertes d'activité dans les grands ports français. Reportage à suivre dans le journal de 7h30. C'est aujourd'hui l'ouverture officielle de Parcoursup, les élèves de terminale et les étudiants en réorientation vont pouvoir commencer à formuler leurs vœux sur la plateforme post-bac. Ils ont jusqu'au 12 mars prochain pour finaliser leur choix. Les réponses arriveront à partir du 19 mai jusqu'au 17 juillet pour la phase principale. Si le principe de la procédure ne change pas, il y a quelques nouveautés sur les études de médecine notamment, et pas seulement à Kim Kasmi.
Si les instituts d'études politiques régionaux, les IUP, font leur grande entrée sur Parcoursup, il faudra encore attendre l'année prochaine pour voir figurer Sciences Po Paris, en cause un nouveau concours d'entrée. Autre nouveauté, un outil complémentaire Parcours Plus pour les personnes qui souhaitent reprendre des études, notamment pour changer de métier ou se réorienter. L'année dernière, ces candidats représentaient 110 000 personnes. Désormais, ils auront donc leur propre site dédié pour s'inscrire. Les études de médecine changent aussi profondément. La première année commune aux études de santé et son concours couperet ont été littéralement supprimés. Les candidats ont donc désormais le choix entre deux voies, une licence de lettres, de droit ou d'économie, avec une option accès santé, ou un parcours spécifique axé sur la santé avec une mineure dans une autre discipline. Ce qui permettra, selon Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de diversifier les recrutements. Le numerus clausus disparaît également et ces études vont se redéployer partout en France, y compris dans les villes qui n'ont pas de CHU, centre hospitalier universitaire. Les élèves de terminale qui pourront toujours faire 10 vœux auront donc jusqu'au 10 avril pour finaliser leur dossier et les réponses tomberont à partir du 19 mai et jusqu'au 17 juillet et seront suspendues en revanche pendant les épreuves du bac qui se dérouleront cette année du 17 au 24 juin.
Le temps de ce mercredi 22 janvier perturbé une nouvelle fois sur les Pyrénées-Orientales où la vigilance orange pour pluie et inondation est maintenue, du froid dans la moitié nord de l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre moins 4 et 0 degrés sur la moitié nord du pays, jusque vers Rhône-Alpes, comptez de 1 à 5 degrés dans le sud-ouest, 8 à 11 près de la Méditerranée. Au meilleur de la journée, il fera entre 5 et 9 degrés dans la moitié nord du pays, 8 à 12 dans le sud-ouest, 12 à 18 partout ailleurs, Guillaume Erner.